bonsoir à tout le monde. Je vais vous inviter à prendre place si ce n'est pas déjà fait. Alors, bienvenue à cet événement de la série littéraire Métropolis Bleue. Ce soir, nous aurons la chance d'entendre Alain Farah. D'abord, je me présente, je suis Ève Parizeau, je coordonne la programmation pour la Fondation Métropolis Bleue. Et voilà, un instant. Donc, la Fondation Métropolis Bleue, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1997 et qui est né du désir de réunir des écrivains et des lecteurs de différents pays. Un des objectifs, c'est de faire tomber les barrières linguistiques et de favoriser les échanges et les dialogues. Donc, la Fondation organise plusieurs activités, dont le Festival littéraire international de Montréal Métropolis Bleue, que vous connaissez peut-être, auquel Alain a déjà participé à quelques reprises, ainsi que plusieurs autres personnes qui sont dans la salle ici, que je salue. Bertrand, Madame Fortier, qui d'autre aussi? Qui j'oublie, qui a participé, Alain, Monsieur de la Rochelière, et plusieurs autres peut-être qui vont y participer cette année, Monsieur Arsenault. Donc, tout au long de l'année, Métropolis Bleue, à part le festival, propose des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la série littéraire. Nous avons des activités à Montréal, mais nous avons aussi des activités à l'international. Au Mexique, par exemple, à Guadalajara, nous y arrivons tout juste. À New York, à Shanghai, à Toronto et d'autres endroits aussi. Donc, pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à visiter le site de Métropolis Bleue, www.metropolisbleue.org, pour avoir plus d'informations. Donc, la série littéraire ce soir présente Alain Farah, qui va nous lire donc des extraits de Matamar, numéro 29, son premier roman qui a été publié aux éditions du Cartanier. Et vous aurez aussi la chance d'entendre des extraits inédits de son prochain livre. Alors, vous êtes vraiment, c'est son cadeau de Noël, là, je pense, qu'il nous offre ce soir. Donc, Alain, pour ceux qui ne le connaissent pas, est né en 1979. Il a publié, donc, un roman.
Il ne fallait pas le dire, ça.
Non?
J'essaie de le cacher.
Oh mon Dieu, excusez-moi. Alors, désolé, Alain n'est pas né en 1979. Alors, mais il a publié un roman, Matamar numéro 29, aux éditions du Cartanier, ainsi qu'un recueil de poèmes, Quelque chose se détache du parc, publié aussi aux éditions du Cartanier. Il est professeur à l'Université McGill, ça, je peux-tu le dire?
Bien, normalement, les étudiants le savent.
OK. Il enseigne la littérature française contemporaine et la création littéraire, et il vit à Montréal. Alors, voilà. Donc, j'aimerais remercier, avant de donner la parole à Alain, le Conseil des arts du Canada qui soutient cette série littéraire. Et nous tenons aussi à remercier chaleureusement Eric Blackburn et toute l'équipe du Port de Tête qui nous accueille ce soir chaleureusement. Et aussi Radio Spirale qui enregistre la lecture de ce soir et qui la diffusera donc sur son site web. Donc, nous allons commencer donc avec l'extrait de Matamar numéro 29. Ensuite, vous serez invités à poser des questions. Nous poursuivrons avec l'extrait de l'inédit. Vous pourrez poser quelques questions et nous terminerons avec une séance de signature et quelques bouteilles de vin qui sont déjà ouvertes et que nous continuerons à ouvrir. Alors, je vous remercie. Passez une belle soirée.
Mais merci de vous être déplacé malgré la tempête et malgré tout le reste. C'est un plaisir pour moi de vous lire le début de Matamar numéro 29. J'ai lu pour la première fois à Montréal l'extrait que vous allez entendre il y a à peu près 3 ans et demi quand on avait lancé la table des matières. Et puis depuis, je l'ai transporté avec moi un peu partout. Et puis je me plais à penser que c'est la dernière fois que je le lis aujourd'hui pour un bon moment. Et à côté de ça, parce que ça m'avait servi, donc on était au Patrovis à quelques coins de rue d'ici, et ça m'avait servi à faire avancer l'écriture de Matamar. J'aime penser que de vous lire aussi un inédit et puis le début du texte contre lequel je me bats depuis un an et demi va peut-être m'aider aussi à me sortir de ce problème-là. Alors, vous reconnaîtrez, pour certains d'entre vous, le début du texte. Avec quelques modifications, c'est le Director Scott que je vous lis ici. Allen Ginsberg, poète béat du temps des Yuri Gagarin, s'arrêta un jour, comme tant d'entre nous, dans un supermarché, mais en parla mieux que quiconque. Moi, qui n'en suis qu'une version réchauffée, je me plais à parler de cela à défaut d'autre chose. C'est un soir de pleine lune, il a mal à la tête, il est épuisé, il se demande de quoi parle son texte. Toutes ces grosses pastèques et tous ces beaux potirons, et toi, Allingé, que fais-tu au rayon des produits surgelés? J'ai cherché pendant des jours une façon de faire revenir cette phrase, esquivant d'avance les possibles malentendus. Il dit ça pour dire ça et vice-versa et ainsi de suite, mais juste une fois sur deux. Puis, il inverse le procédé, disant plutôt ça pour ça, bien qu'il déclare faire le contraire sans vraiment bien l'indiquer, ce qui, en fin de compte, teinte d'ambiguïté sa démarche. Probablement un de ces types généreux qui veulent trop bien faire. Comment cette conne nous engueule pendant que nous rigolons calmement, que nous bavardons entre nous de tous ces souvenirs plaisants? Elle dit « Vous riez trop fort » en employant ce mot à l'emploi rarissime « allégresse ». Virginie, ce sera de l'agneau. Richard, ce sera de l'agneau. Jacqueline, ce sera de l'agneau. Alain, quelque chose avec du potiron. Ah! Fermer la porte, prendre l'ascenseur, saluer la gardienne, descendre rue des entrepreneurs, monter dans le métro, ouvrir la porte, entrer dans le musée. Parce que ce que je racontais à l'époque de façon très maladroite et ambiguë, comme je me critique moi-même dans l'extrait que je viens de lire, c'est que j'ai visité, j'étais pris justement avec quelques pages qui me fatiguaient, et j'ai visité au Centre Pompidou à Paris une exposition qui portait sur les œuvres, des œuvres qui ont été produites à Los Angeles dans les 30 dernières années. Et je suis tombé sur l'œuvre de Jeffrey Valance, dont je parlerai dans un instant. Alors, puisque c'est une exposition qui porte sur Los Angeles, je me dis à moi-même, je suis allé deux fois à Los Angeles, dit-il, comme pour passer aux choses sérieuses. À la base de sa philosophie, le coût contre le bénéfice. Est-ce comme ça que Richard se sent lorsqu'il pense à son séjour? Paris, 2006, j'ai 26 ans. Sur les Champs-Élysées, alors que nous remontons l'avenue, j'aperçois par hasard la deuxième joueuse mondiale. Elle a tout ce que j'aime, elle est grande, elle est blonde, elle est polonaise. Je me dis, il faut absolument que je prenne Richard en photo avec elle. Il est venu à Roland-Garros pour ça, c'est un grand amateur de tennis. Sans photo, personne ne nous croira. Je sors l'appareil, j'use de psychologie. À la deuxième joueuse mondiale, je dis. Et à cette époque-là, je l'avoue, finalement, c'est Maria Sharapova dont je parle ici. À la deuxième joueuse mondiale, je dis, « Puis-je prendre une photo de vous avec mon père? Il admire tant votre jeu aérien. » Or, j'oublie mes origines phéniciennes devant ce Richard, pseudo-père, blanc, de souche, pure laine, tu vois le topo. Sa femme, marraine de ma fiancée, relativise. Ça existe, l'adoption. Il est venu voir des championnes, il a vu une championne, c'est un bénéfice, point, parti. Je vous raconte tout ça pour vous dire qu'au musée, je tombe sur la tombe d'un poulet. Comme une dalle, un monument. Sigi Blinky, volaille, béni des dieux. Un matin d'avril 1978, Jeffrey Valance, artiste de Los Angeles, se rend dans un supermarché en Californie, achète un poulet au rayon des surgelés, le baptise Blinky, sort du magasin, se rend au cimetière des animaux, organise l'enterrement de la volaille, patiente pendant 10 ans, retourne au cimetière, demande l'exhumation des restes du poulet, exige une autopsie pour déterminer les causes du décès, expose le suaire dans lequel il est enterré, récupère les os de Blinky et bientôt les dépose dans un reliquaire italien du 18e siècle. Une performance artistique, une vraie bonne performance artistique. Un peu comme cette Britannique qui me confie avoir tant d'amour à donner qu'elle adopte sans cesse des lapins. Un peu comme cet immigrant qui, s'ennuyant de ses parents, décide de se poster vers son pays d'origine dans une boîte censée contenir du matériel informatique. Un peu comme cette lectrice intriguée qui s'adonne au décryptage de mon texte. Quand vous dites Alain G., parlez-vous du pape du nouveau roman Alain Grillet? Mademoiselle, c'est étrange que vous évoquiez le nom de cet agronome puisque j'ai mangé, il n'y a pas si longtemps, une excellente sole meunière en sa compagnie. Ce fameux jour de 2005 où les Romains, massés aux abords de la place Saint-Pierre de Rome, attendaient anxieusement que Johannes Paulus II rende son dernier souffle, un 1er avril, un jour de poisson. Alors, je ne peux pas ne pas m'interrompre et, en disant que le 1er avril, c'est Ève Parizeau qui s'était occupée de faire venir Alain Robbe-Grillet à Montréal et qu'il était là et que, comme de fait, on est allé manger avec lui et que c'était assez curieux. Alors, je dis « on » parce que Ève n'est pas venue. Elle avait des rapports plutôt conflictuels avec le pape du Nouveau Roman. Mais je dois beaucoup à Métropolis Bleue, puisque je ne fais que parler de ça, vous le savez tous. C'est la seule chose presque qui m'est arrivée dans ma vie de rencontrer Robbe-Grillet, on dirait. Mais je te milk ça, comme dit mon éditeur, puisque c'est à peu près c'est un des hauts lieux. Là, bon. Alors, en rentrant chez moi, j'écris à mon journal. Cher journal, j'ai regardé la télévision toute la journée. Le pape est à l'agonie. Parce que pour moi, c'est important de penser que le pape est en train de mourir en même temps que je suis en train de manger avec Robbe-Grillet. Je ne suis pas capable de me dire que c'est ça. Tout est lié. Le pape est à l'agonie et ce soir, j'ai décidé d'aller au Festival de littérature. Donc, Métropolis Bleue, je ne le dis pas dans le livre juste pour des questions de droit. Ça a été une bonne idée quand j'y repense après coup. J'en tire un bon bénéfice. J'ai croisé par hasard Marie-Claude et Maxime qui m'ont invité chez eux pour souper avec Alain Hergé. C'était une circonstance inhabituelle. Ils avaient préparé de la sole meunière. J'ai dit d'entrée de jeu à l'agronome, « J'ai l'impression de manger de la sole avec Napoléon, M. Robbe-Grillet. » Ça a détendu l'atmosphère. Il nous a raconté l'anecdote des éléphants qui, croisant un zèbre dans un zoo, le traite de formaliste. Et à la fin de la soirée, je lui ai demandé une dédicace pour ma copie des gommes. Il a écrit « Pour Alain, comme mes zigs, bien amicalement, Platon. » Non, mais allez-y. Hein.
C'est peut-être Alain qui nous appelle de l'au-delà.
Oui, c'est vrai. Alors, tout est beau, la lectrice en roue libre étoffe son hypothèse, trop heureuse de pouvoir s'engouffrer dans les possibles offerts par cette triple homonymie. Vous êtes un Alain? Vous parlez d'un autre Alain, mais en même temps, on pourrait croire que vous parlez d'un autre Alain. Je ne vous suis pas. En travaillant à la génération de votre propre double, en doublant cette génération de l'évocation d'un spectre, car cet Alain californien dont vous parlez, ce poète béat, est déjà mort, comme le poulet, ne cherchez-vous pas à montrer que le fils peut être le spectre du fils dont le père est le spectre? Oui, en effet. Consubstantiellement, le fils parlant du père parlerait sans le vouloir aussi du grand-père, étant de manière tous les trois à la fois, mère de sa propre écriture, donc fils du père dont la poule est l'objet. Un travail de filiation, vous voulez dire? Non, plutôt un travail de filature de la filiation. Le passé est bon prophète, vous savez. Il faut que je place un proverbe italien pour l'inciter à conclure. Il faut que je quitte vite son terrain pour l'amener sur le mien, celui du bavardage. Alors, comme on fait souvent, je lance un proverbe italien. Qui va piano, va sano. Et elle dit Renzo Piano, j'adore cet architecte. C'est raté, il va falloir autre chose. Alors, il enlève ses lunettes, se frotte les yeux, soupire. État de la situation, on a une lectrice illuminée qui harcèle un jeune homme d'assez bon genre avec une théorie à la con. Le type de traitement homéopathique, le mal par le mal, la méthode, improvisation d'un opéra célébrant la rédemption d'un poulet. Alors, elle approche, étend l'oreille, et c'est là, comme dans Hamlet, que j'y verse mon récital, comme un bon poison. Blinky, au toit, pauvre bête, guide tes frères au royaume de Bologne, opéra. Quelle pensée ai-je pour toi, Blinky, quand, parcourant le rayon des surgelés, je pense à ces milliards d'autres bêtes damnées de ne pas avoir eu droit à une correcte sépulture. Est-ce eux que je vois là sirotant la rive gauche du Léthé? Descendant au fond des enfers, guidé par la barque de mon vieux frère Charon, j'ai eu chaud, Blinky, devant ces milliards de sacrifiés, martyrs de nos alimentations. Tu remontais à la surface de la terre et pendant ton ascension, j'ai récité à Hadès ces quelques vers. Je ne me suis pas retourné, Blinky. J'ai appris des erreurs des autres. J'ai eu la vision d'une région de paix, la Bologne. J'ai rêvé d'en faire une terre d'exil pour le corps de tes frères, Blinky, congelés, rôtis ou digérés, peu importe où accostèrent leur destin, tous qui gambadaient dans les prairies verdoyantes de mon imagination. Merci, mademoiselle, a été complètement soufflée. Je lui dis quand même qu'elle fera fortune dans la glose. J'observe, je regarde et je suis mal pris puisqu'elle me demande comment décririez-vous votre technique. Eh bien, mademoiselle, je concentre mes idées avec beaucoup de pression et je les éjecte à très grande distance. Je comprime mon vécu pour disséminer dans chaque phrase la force d'une vie. Et quels résultats sont ainsi escomptés? Je travaille à faire sentir la brise fraîche, mademoiselle, celle qui caresse les visages quand on se détend sur un yacht, lorsque l'ambiance est décontractée, qu'on écoute le murmure de la brise sur les vagues. Alors, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Puisque, bon, les aventures du Matamor se poursuivent, notamment avec l'usage d'un canon assez particulier, comme vous le savez. Mais pour qu'on ait peut-être la chance de discuter un peu, je vais m'arrêter là pour tout de suite.
Alors, merci Alain. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont envie de poser une question, deux questions, qui ont envie de revenir sur le texte? Ah, Madame Van der Klee.
Merci, Madame Parizeau. Alain, je vais être, disons, pour l'exercice, je vais être donc ta lectrice intriguée, si tu veux bien. Je vais donc essayer de m'adonner avec toi au décryptage de ton texte. Matamor. Matamor. Matamores. Donc, Matamor, qui dans la comédie espagnole est le faux brave, n'est-ce pas? Est-ce que Matamor, ici, c'est l'histoire d'un Don Quichotte, un faux brave, un fanfaron? Quelle est cette figure que tu nous présentes de Matamor?
Mais... Pour la petite histoire, souvent ça commence comme ça avec des titres et puis après on développe et puis je me suis retrouvé à manger justement un drôle de poisson au Matamor numéro 29 d'une petite île comme ça, quelque part là, dans le sud. Et puis je m'étais posé la question, ce que je raconte dans le livre, qu'est-ce que c'est un Matamor? Le nom m'avait interpellé et puis pendant tout le long du séjour, j'étais pas capable de m'enlever de la tête et puis je me disais c'est celui qui tue les taureaux. Celui qui tue les taureaux. Là, c'est typique. Mon éditeur est mort de rire parce que c'est typique de ma dyslexie. Et puis, à mon retour, j'ai vu que ça voulait dire justement faux brave, fanfaron, etc. Puis je me suis dit, je l'ai là. C'est la métaphore de l'écrivain tel que je l'entends. Et puis, à partir de là, ça m'a aussi donné tous les droits de pouvoir justement en mettre en beurré épais, puisque ce n'est pas modeste numéro 34, comme Éric me faisait remarquer dans les discussions. Et puis, à partir de là, je me suis dit, je vais raconter comment ça se passe quand on est sur le yacht, et puis comment c'est quand on mange dans les grands restaurants, et puis la vie de Richard qu'on mène, etc. Donc oui, c'est une figure de l'écrivain qui permet après de pouvoir déployer les possibles, puis la puissance de la fiction.
Donc, pour enchaîner là-dessus, est-ce que tu dirais que ce courageux, ce brave Matamor, finalement, il faut être courageux pour écrire aujourd'hui?
Non, c'est un poltron. Hein? C'est le Matamor, comme on l'entend, c'est ça, c'est un faux brave,
c'est
etc.
Un faux brave.
Et puis, il me semble que l'écrivain est toujours aussi un poltron, au sens où... et puis, je ne sais pas si tu t'en souviens, Elsa, mais quand on était à la librairie francophone, donc à peu près un an... où là, c'était vraiment les feux croisés. Tout le monde disait « c'est minable comme texte! » Des choses comme ça. Et puis, c'était assez... Ouais, des petites histoires de merde. C'était des trucs comme ça. Il y avait 2 millions d'auditeurs ou un truc comme ça. Puis, ouais, c'est ça. Et puis, le mec qui est là, je ne le nommerai pas, mais... il est dans son truc de l'écriture. L'écrivain est dangereux, il est terrible. Puis moi, j'étais comme, ben, je pense pas. Tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui est chez lui, qui est en train de faire ses petites affaires, comme un, il est planqué. Et puis, il n'est pas dans la vie, il est à côté de la vie constamment, tout ça. Donc, je ne trouve pas qu'il faut du courage, je pense qu'il faut de la maladie pour écrire.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Parce que sinon, je vais enchaîner sur la maladie. S'il faut la maladie, c'est quoi le sombre? Qui est le sombre? Est-ce que ton matamor est sombre?
Mais il est pris avec ça au sens où c'est son ennemi intérieur. Donc, ouais. le sombre, c'est comme on discutait, c'est une figure un peu fantasmatique d'un ennemi à trouver qui serait quelque part dans tous ses récits, qu'il surveille. Dans le fond, la narration est double. Il y a l'architecte qui est là, qui est le type qui écrit le texte, et puis il envoie pour raconter sa vie, Joseph Mariage, en mission pour aller dans différents épisodes pour pouvoir raconter, justement, comme si c'était possible, raconter sa vie. Et puis, le sombre, c'est un peu l'objet de la mission, c'est-à-dire c'est lutter, c'est pour lutter contre lui que le livre s'écrit. Donc, c'est un personnage un peu comme ça, fuyant.
Je vais réenchaîner avec le sombre. Là, je prends la page 191 et... Donc, on est encore au restaurant. T'es souvent au restaurant. Hein? Nous rigolons. Il m'apprend la phrase de Robert Filliou. Je la prends à mon compte et la prendrai à mon tour à d'autres. Il continue de lutter contre le sombre et les illuminés. Et donc, là, tu dis, t'as une citation. L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Donc, le sombre te permet aussi d'aller vers l'art.
Oui, mais ça, cette citation-là de Filliou, on m'en parle souvent, en fait. Je pense qu'en domaine québécois, elle n'est pas si connue, mais c'est mon ami Thomas Bréchet qui m'en avait parlé il y a longtemps. Donc, Thomas Bréchet, qui était un artiste quand même complètement, tout à fait singulier, à la fois artiste sonore, écrivain et puis plasticien. Et puis... Je parle de Thomas parce que ça explique aussi comment le sombre a pu apparaître dans le livre comme tel. Parce que les trois quarts de l'écriture du livre se sont passés dans une espèce de combat entre moi et moi où j'étais pas capable d'avouer, en fait, qu'est-ce qui se passait dans l'arrière-boutique et qu'est-ce qui m'amenait à écrire de cette façon-là en tournant autour de l'objet. Et Thomas est décédé subitement et puis certains d'entre nous ici en sont encore très malheureux. Et... je me suis retrouvé devant cette espèce de trou-là à me dire « Mais comment je peux continuer à faire mes petites facéties, etc. » alors qu'il y a quelque chose comme ça qui nous arrive. Et Thomas avait été tellement courageux que ça m'a obligé aussi à justement être un peu moins poltron et dire « Bon, ben c'est ça. Ça, c'est le problème. Le problème, il est là. C'est pour ça que j'écris ta-ta-ta-ta-ta-ta. »
OK. Donc, c'est pour ça que tu réponds aussi à Mademoiselle. À la page 205, je lui réponds « Mademoiselle, pour devenir le matamor. » Pour que mes histoires deviennent une histoire, il a fallu que j'engage tout mon corps. Donc, ouais. C'est pour répondre à cette exigence-là.
Tout à fait. Puis, c'est justement aux trois quarts d'écriture du livre que la maladie peut, en fait, devenir un vrai sujet contre lequel... parce que c'est dur de se battre contre des moulins ou contre des fantômes, mais puis tout d'un coup, ça devient beaucoup plus simple quand on a des ennemis. Ça tombe bien, là, j'en ai beaucoup. Mais donc, aussi... pour justement sortir des petites histoires, des 29 épisodes comme ça, un peu fuyant et facile, idiot, assumé comme tel, il fallait cet événement-là. Mais en même temps, c'était une façon aussi de rentrer dans l'histoire avec le ou la H majuscule. Et puis, oui, c'est pour ça qu'il y a cette citation-là.
Non, vous n'avez pas d'autres questions?
Je pense qu'il n'y a pas de questions. Les gens sont...
Non, pas de questions.
Mais merci à vous, merci de vous être déplacés. Puis,
On continue la fête. Hein. Il y a encore un peu de verre à rester pour jaser avec notre auteur qui ne vous
dit pas.
Ah oui, ils ont toutes déjà, j'ai toutes déjà signé.
C'est ça, la mienne.
Parfait.
Courage.
Merci.